Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Politiquement Vôtre, votre émission politique mensuelle, une émission imaginée par les acteurs sociaux du centre Goscinny et Oudinet avec pour ambition de permettre à la jeune génération de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent directement et de leur permettre d'acquérir une compréhension, on l'espère en tout cas, plus approfondie de la politique et de la manière dont elle affecte leur vie quotidienne. Et pour permettre ça, je suis accompagné que de novices, il n'y a que des nouveaux. Mon ancienne équipe m'a lâché totalement. il n'y a que des nouveaux et galanterie oblige, on va commencer par Oriane. Comment ça va Oriane?
Ça va et toi?
Ça va. Est-ce que tu peux bien parler dans le micro s'il te plaît? Excuse-moi. Et surtout te présenter?
Bonsoir, je m'appelle Oriane, actuellement en stage au centre Oudinet.
Et Goscinny aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un autre du centre Goscinny, ils sont venus en équipe. C'est une descente, comme diraient les jeunes. C'est lui, comment ça va lui?
Ça va très bien et toi?
Ben, ça va, est-ce que tu peux te présenter également?
Yes, donc moi je m'appelle Louis, j'ai 22 ans et je suis en service civique en tant que coordinateur de projet au centre Goscinny.
Ça va, ça te plaît?
Ça va, ça va.
Ça va, t'es prêt pour aujourd'hui?
Ouais, je suis prêt, j'ai bien préparé ma chronique.
C'est top, alors on a hâte d'écouter ça. En face de lui, le sourire le plus légendaire de la capitale. Ça va Lucas?
Ça va et toi?
Ça va, est-ce que tu peux te présenter Lucas?
Bien sûr, je m'appelle Lucas, j'ai 32 ans. Et donc j'ai fait une formation de journaliste, et ça faisait assez longtemps que j'avais arrêté. J'étais parti sur d'autres choses, et là je reviens à mes premiers amours. Et du coup j'ai eu envie de m'engager à Mon Paris FM, voilà. Parce que votre émission politique me plaît.
Bah, ça nous plaît aussi que tu sois là. Pourquoi t'avais arrêté le journalisme?
Alors, j'avais fait un projet de tour de monde sur le thème de la musique. Donc, ça s'appelait ça s'appelait la musique comme outil de représentation et de revendication. Donc, on allait avec un ami, on allait dans divers pays pour rencontrer des artistes, principalement des musiciens, et on leur demandait comment la musique leur permettait de s'exprimer, de revendiquer des choses. Sauf qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc le projet a un peu fini en eau de boudin, même si on ne désespère pas d'écrire un livre à ce sujet. Et ensuite, voilà, il a fallu trouver du travail après le Covid. Donc besoin de stabilité pendant un moment. Et là, on revient vers le journalisme en pleine forme.
Bah, on espère que ça fonctionnera pour toi. En tout cas, on est très très content de t'avoir autour de la table. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous reviendrons sur la carrière politique de notre invité, la raison de son engagement et ses missions. Puis tour d'horizon avec la chronique de lui qui nous enverra à l'historique du 18e arrondissement de Paris avant que l'on enchaîne sur les initiatives mises en place par notre invité dans son arrondissement. En deuxième partie d'émission, nous mettrons les pieds dans le plat avec Oriane, puis notre invité fera face aux interrogations des chroniqueurs et chroniqueuses et nous reviendrons sur les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été à Paris. Politiquement Vôtre, saison 3, épisode 2, c'est maintenant. Né le 15 juin 1989, il est une figure politique éminente à Paris. Actuellement adjoint au maire du 18e arrondissement, il est chargé de la sécurité, de la police municipale et de la vie nocturne. Il occupe également des postes de responsabilité au sein du Parti Socialiste de Paris. Son parcours professionnel varié inclut des rôles dans le consulting, la politique internationale et le secteur humanitaire. Il a également travaillé à l'Assemblée nationale et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Avec son expérience diversifiée, il apporte une perspective enrichie sur les enjeux politiques et sociaux contemporains. Kevin Ave est notre invité. Comment ça va Kevin Ave?
Bonjour, très bien et vous?
Bah ça va, très content de vous accueillir. On le rappelle, vous êtes le prof de l'un de nos animateurs à la radio ici, le prof de Loïc, qui nous a suggéré de vous inviter. On trouvait que c'était une très très bonne idée. J'ai l'habitude de poser comme question à mes invités avant qu'on commence l'émission, qui c'est qu'est-ce qui vous a amené en politique, Kevin Ave?
Qu'est-ce qui m'a amené en politique? C'est la lutte contre les injustices. Voilà, moi je suis fils d'ouvrier et c'est les raisons pour lesquelles ça m'a marqué quand j'avais 6 ans. C'est mon premier souvenir en politique, c'est la mort du Mitterrand. C'est le 6 janvier 96, c'est un détail parce que je pense que pour beaucoup, vous étiez trop jeune, quoique je crois toi aussi, tu es aussi vieux quasiment que moi. J'étais un peu moins, donc j'avais 6 ans et c'est mon premier souvenir en politique. Voilà, c'est de l'émotion.
Et vous aviez toujours su dès l'enfance que vous alliez faire ça?
Non, pas du tout. Je voulais faire, je pense que comme tous les jeunes aujourd'hui, on n'a pas forcément une image très claire. J'ai voulu faire plein d'autres choses. Archéologue, astronaute, mais bon, j'ai vu que j'avais le vertige. Donc, je pense que ce n'est pas la meilleure idée. Prof d'histoire, psy. Et puis au final, peut-être qu'il y a un mélange de tout ça dans la politique. aller vers d'autres horizons, essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, comme pourquoi je me suis orienté aussi vers la politique, mais c'est une passion de jeunesse.
Et comment vous arrivez en tant qu'adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris ? Comment ça se fait ? Et surtout, la question, c'est comment est nommé en fait un adjoint au maire pour les jeunes qui nous écoutent ? Comment on nomme un adjoint au maire et quelles sont vos missions ?
Alors, comment on rentre en politique ? Déjà, il faut s'investir dans des associations, dans les partis politiques. Ce n'est pas forcément aujourd'hui les choses les plus évidentes. Et puis, les partis, bon, aussi leur faute, ne sont pas forcément très attractifs. Et donc, il faut s'engager. Moi, de manière très classique, j'étais responsable, je me suis engagé dans un parti, au Parti Socialiste. Je suis devenu responsable du Parti Socialiste dans le 18e. J'ai été directeur de campagne dans le 18e. Et puis, on a fait partie en 2020. Les élections municipales, c'est tous les 6 ans. Et donc, les dernières élections municipales, j'ai fait partie de la liste. J'étais élu. Le maire du 18e, Éric Lejoindre, m'a demandé quelle délégation pouvait m'intéresser. J'ai dit, entre autres, la question de la sécurité, puis créer une police municipale de proximité. C'est important, en particulier dans nos quartiers. Et donc, voilà. Donc, c'est une aventure qui a commencé ainsi. Et puis, c'est passionnant.
Lucas, est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, il y avait cette envie aussi de s'investir politiquement ou pas du tout ? Quel était ton rapport à la politique, en tout cas ?
Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très intéressé par la politique parce que j'ai une famille qui est très politisée. Donc c'est assez particulier. Chez moi, on parle de politique à table, etc. C'est des choses sur lesquelles on échange. Mais je crois qu'il y avait encore des choses qui nous politisaient. Par exemple, il y a eu des grands événements. Le passage au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen en 2002, c'est quelque chose qui constitue un engagement politique. Pareil pour les émeutes de 2005. Donc moi, ma génération, elle s'est beaucoup politisée à travers ce genre d'événements, mais il y avait déjà les premiers signes de rejet, un peu du système politique qui apparaissent très franchement maintenant auprès des jeunes. On commençait déjà à sentir ça.
Lui, Lucas, qui nous parlait d'une famille, d'avoir une famille très politisée, est-ce que c'était le cas à la maison ? Est-ce qu'on parlait de politique à table ?
Mes parents parlaient politique, oui. Après, je vous avoue que quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait que très peu. Donc, je vous avoue que je me suis politisé que très tard.
Et c'est quoi la raison de cette politisation ?
C'est, je pense, la rentrée, enfin l'entrée dans l'âge adulte, et donc forcément la confrontation au vrai monde, on va dire. Donc, je pense que c'est important d'avoir des avis et de, à son échelle, être maître de son avenir.
Oriane, toi, tu es un peu plus jeune que nous tous ici autour de la table. Ça représente quoi la politique pour toi ?
Pas grand-chose pour le moment, en tout cas. Parce que chez moi, on n'en a jamais réellement parlé. Et pour moi, c'est plus... je ne suis pas concernée par ce monde-là. Étant jeune, j'ai l'impression que c'est des décisions qui se prennent en dehors et que je ne pourrai jamais avoir un rôle dedans.
C'est vrai ça, Kevin Avet ?
Je prends juste un exemple. Il y a... On est quel jour ?
On est jeudi. On est jeudi.
En ce moment, ça passe assez vite. la semaine dernière, on a un jeune du 18e qui a tué un autre jeune. On a eu un homicide, c'est comme ça que le parquet l'a nommé, dans le cas d'une rixe. Une canne du rixe entre deux groupes de jeunes, un jeune du 18e et un jeune du 19e, qui l'a tué avec un coup de couteau, avec une opinel. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui malheureusement se déplacent avec ces couteaux-là, qui sont très répandus. Et puis en effet... D'instinct, voilà, on se dit la politique ça ne nous concerne pas, mais en fait c'est après qu'est-ce qu'on fait, un sur le moment, et qu'est-ce qu'on fait après pour que voilà, des drames comme ça ne se reproduisent pas. Parce qu'aujourd'hui c'est deux familles qui sont complètement meurtries, évidemment, la famille du jeune qui est décédé, avec qui on est en contact, qui est complètement dévastée, on a un gamin de 18 ans, qui est mort. On a une famille qui est complètement dévastée, là ils ont vu le corps pour la première fois, ils vont essayer de l'envoyer... pour les funérailles au Mali, d'où est originaire la famille. Et puis on a la famille aussi, dont il y a l'auteur présumé des faits, qui a 18 ans. Le matin même des faits, il était en train de refaire son CV. Et donc il se projetait sur le futur, et puis ça n'a pas empêché que quelques heures après, il sorte un coup de couteau pour planter un mec au thorax, qui est décédé immédiatement. Et donc voilà, après aussi notre boulot en tant que politique, mais c'est le travail qu'on fait aussi avec les jeunes, c'est comment on fait en sorte pour après qu'il n'y ait pas de vengeance. Comment on fait en sorte après pour reconstruire ça ? Le travail, je crois qu'on est aussi dans un centre Paris-Animes. Ça s'est fait à 5 mètres d'un centre aussi, nous, Paris-Animes, ouais. Dans le 18e, centre Paris-Animes
Hébert. C'est ça.
Exactement. Juste entre deux écoles, un collège. Et donc, l'ensemble des équipes sont complètement bouleversées. Hein. On le comprendrait pour moi. Et donc, voilà, c'est aussi la politique, c'est des choses très concrètes. Mais ça implique aussi parfois des. Bah, comment on fait pour recruter aussi des policiers nationaux? Comment on fait pour recruter des policiers municipaux? Comment on fait pour recruter des clubs de préf? Comment on fait pour qu'on ait des acteurs comme bah, là où on est, où les gens se rencontrent, se parlent, se comprennent mieux et puissent construire un meilleur futur? Et donc, c'est aussi ça, la politique, c'est des choses très, très concrètes.
Okay. Juste avant qu'on mette les pieds dans le plat avec tous les sujets que vous avez évoqués, on va faire un tour d'horizon avec lui qui va revenir sur une présentation du 18e arrondissement de Paris.
Alors, avant de commencer ma chronique, j'aimerais vous poser quelques petites questions assez légères. La première, selon vous, quelle est la date d'ouverture du Sacré-Cœur? Est-ce que vous savez?
J'en ai aucune idée.
Aucune.
C'était pour se faire pardonner les péchés de la Commune de Paris, donc une souscription nationale qui avait été lancée, ça doit être dans les années 80, enfin 1890, en tout cas le lancement.
À bout.
Alors moi j'ai aucune idée, moi je suis venu présenter une émission, on m'envoie en présentation, en examen, non j'ai vraiment aucune idée, mais peut-être que Lucas...
La réponse était 1875, donc vous étiez vraiment pas loin, je l'ai appris tout à l'heure, moi aussi je veux pas faire l'acteur. Deuxième petite question, quelle célébrité a sa statue, enfin du moins son buste, présent dans le 18e arrondissement?
Monsieur l'adjoint, il l'a peut-être.
C'est sûr.
Petit indice, c'est une chanteuse.
Ça nous aide pas beaucoup.
Edith Piaf?
Non.
Qu'on en parle en ce
moment.
Mais
elle a commencé aussi à Montmartre, elle habite Montmartre.
C'est une Française?
Ouais, française.
Qui est née en Égypte.
Dalida.
Exactement.
Un peu de culture.
Bravo, bravo, bravo.
Et pour l'anecdote, c'est son buste qui est mis en avant. Et si vous y allez, vous verrez que sa poitrine est légèrement...
Exactement.
Parce que beaucoup de personnes prennent des photos avec leurs mains sur la poitrine. Et donc c'est la partie qui est la plus décolorée de la statue.
Et c'est dans quel coin du 18e arrondissement?
C'est à Montmartre, c'est pas très loin de la Marque Olincourt.
Ok.
Pour revenir un petit peu sur la basilique, est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant sur cette colline?
Alors là, pas du tout.
il y avait des bidonvilles avant l'ouverture et la construction de cette basilique. Ouais, il y avait des bidonvilles. Et je vais finir par une dernière petite question. Alors, il y a un cinéma dans le 18e arrondissement qui s'appelle L'Ornano, qui est l'un des plus vieux de Paris. Est-ce que vous savez... Ah, on vient de me dire qu'il n'existe plus.
Ah, zut.
Est-ce que vous savez la date d'ouverture de ce cinéma?
Du coup, on va faire date d'ouverture et de fermeture.
Oui, et de fermeture. Alors,
j'ai pas la date d'ouverture, mais en effet, je pense qu'il est fermé aujourd'hui.
Ok, d'accord.
Mais je suis preneur de la date d'ouverture.
Alors, la date d'ouverture, c'était en 1907.
Ok.
C'est quand même très, très vieux.
Et on sait pourquoi il a fermé ou pas? On n'a pas de...
Bah, ça fait partie. On avait après partout en France, il y avait partout à Paris, il y avait plein de petits cinémas de quartier. Mmh. Je pense que nos parents, même plutôt nos grands-parents, allaient passer leur week-end là-bas. Et puis en fait, ça s'est progressivement cassé la figure, tout ce marché. Aujourd'hui, on va soit dans des UGC, des Gaumont, soit on va surtout sur Netflix. Donc ça continue aujourd'hui la dégringolade du cinéma.
Mais il y a toujours un très beau cinéma à Barbès, le Luxor, c'est ça?
Ouais, alors il est côté 10e malheureusement, mais ouais, on va dire que c'est côté 18e, on va le récupérer. Mais c'est un super et on peut avoir des inscriptions égyptiennes, des hiéroglyphes à l'intérieur.
Ouais, très beau cinéma.
Et vous avez un petit café caché tout au sommet, vous avez une vue sur le Sacré-Cœur, justement, on en parlait. C'est, voilà, très peu de personnes le connaissent et le café est pas cher. Donc,
même de l'extérieur, il est très beau le cinéma beau aussi. Bâtiment. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du 18e. Je vais essayer du moins. Donc le 18e arrondissement de Paris, il a vu le jour en 1860. C'est lors du projet d'agrandissement ou aussi appelé d'annexion des villes qui étaient alentour à Paris. Donc, avec ce projet, Paris est passé de 12 à 20 arrondissements. Et avec ce projet, la superficie de Paris a doublé. Et donc, elle est actuellement de 7000 hectares. Et sa population, elle a augmenté d'un demi-million d'habitants. Tac, 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 excusez-moi. Et le 18e arrondissement, ça a très vite été un foyer pour la culture. Dans mes recherches, j'ai vu que, par exemple, la Cigale, donc la salle de concert, elle a été créée en 1887. Le Moulin Rouge, lui, c'était en 1889. Et on peut voir c'est que pendant cette période et après, il y a énormément d'artistes qui ont vécu et ou qui ont été inspirés par le 18e arrondissement. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu Edith Piaf, il y a eu des peintres comme par exemple Van Gogh ou Monet ou même Picasso. Il y a eu Émile Zola et Dalida, comme on en parlait. Et ces artistes, ils ont vraiment contribué à la renommée et à l'image du 18e arrondissement de Paris. Mais moi, j'aimerais parler aussi également de l'autre visage du 18e arrondissement, qui est celui-là un petit peu plus récent. En fait, suite à la vague d'immigration qui était au départ une immigration algérienne, qui a commencé à l'entre-des-guerres jusqu'aux années 60, donc jusqu'à la guerre d'Algérie, il y a eu une énorme immigration algérienne. En fait, c'était des populations qui étaient pauvres. Et en fait, ils venaient parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, pardon. Et ils habitaient dans des quartiers qui étaient industriels, parce que justement, besoin de main-d'œuvre. Et ces quartiers étaient très souvent défavorisés. Et ces personnes-là, elles n'étaient pas du tout bien vues ni acceptées à Paris. Donc ils avaient des surnoms, ils étaient très stigmatisés et ils ont même été massacrés justement le 17 octobre 1961. Donc c'était, je ne sais pas, je vais réexpliquer, mais lors d'une manifestation pacifiste, il y a entre 200 et 300 Algériens qui ont été tués par la police. Et le problème, c'est que ces personnes-là, ils n'avaient pas le droit ou ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer comme ils le voudraient. Mais ce qui a changé et ce qui leur a permis de s'exprimer, c'est arrivé dans la fin des années 80, c'est le rap. Donc le rap, ça a été vraiment pour les populations... en fait, ça a vraiment permis aux gens des quartiers défavorisés de pouvoir s'exprimer. Et dans le 18e arrondissement, il y a eu énormément de rappeurs très connus qui ont émergé. Les premiers, c'est le groupe Assassin. Donc ça a vraiment été les pionniers. Il y a eu également Doc Gineco, la Secret Connection. Et plus récemment, il y a eu Hugo TSR, Sopico ou Guy de Besbar. Ça, c'est vraiment des gens très connus.
Il y a Gizmo aussi, je lâche une petite... Moi, j'adore Gizmo, donc je le mets aussi. Ouais, faut oublier Gizmo.
J'avoue, t'as raison. Gizmo.
Lucas, elle a l'air moins fan de Gizmo.
Non, mais Gizmo, il revendique beaucoup Villeneuve-la-Garenne 92, beaucoup plus que le Paris 18e.
Oui, mais c'est un gars du 18e. C'est un gars du 18e, mais c'est pas lui qui décide.
C'est la Secret Connection qui, pour moi, est vraiment le groupe emblématique du 18e arrondissement.
Et en fait, avec tous ces artistes, tous ces rappeurs, c'est comme un second souffle de la culture du 18e arrondissement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas forcément la même image que, par exemple, les Edith Piaf, les Émile Zola, parce que, comme dans le 18e, comme je disais, il y a vraiment deux visages, le côté ce Montmartre assez touristique et l'autre côté, justement, de par son histoire avec l'immigration. Donc voilà. Et pour parler d'autres artistes qui viennent du 18e arrondissement, je ne sais pas si vous connaissez le créateur de la marque Maison Château Rouge qui s'appelle Youssouf Fofana. Donc c'est une marque qui vient justement de Château Rouge, du 18e arrondissement, qui a fait des collaborations avec Nike et Jordan. Donc ça a été vraiment reconnu à l'international. Et en fait, c'est une marque qui est produit. En fait, tous les produits sont du quartier de Château Rouge, justement. Et c'est produit entre Paris, Abidjan, Bamako et Dakar. Donc en fait, c'est une marque qui reprend les codes et l'artistique africain. Je dis africain parce qu'il y a des influences de plusieurs pays, mais à la manière contemporaine. Donc c'est retravaillé, revisité, etc. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette marque aussi, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a cette envie de représenter le quartier justement de Château-Rouge. Par exemple, si vous allez dans la boutique, vous pouvez voir typiquement les disques d'or de Guy de Besbar. Donc c'est un artiste pareil de ce quartier-là. Et donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Comment pensez-vous que nous pouvons réunir ces deux mondes, justement, du 18e arrondissement?
On fait chanter Edith Piaf à Guy de Besbar à l'ouverture des JO.
On aurait pu le proposer à Macron, je pense qu'il aurait été à fond pour.
Je suis pas sûr de ça.
Mais déjà, Aya Nakamura, c'est très bien. C'est
très très bien.
C'est un peu la même histoire qui se répète. Parce que pourquoi les artistes venaient à Montmartre? Parce que, vous l'avez dit juste avant, avant c'était un quartier fauché. C'était des bidonvilles, les artistes ils étaient fauchés, et donc ils habitaient à Montmartre. Et donc, pourquoi aussi, vous parliez à juste titre du rap, mais aussi le rail, qui est en partie né évidemment ici aussi à la Goutte d'Or. Là, on a une place qui s'appelle Cheikh Remiti, qui est dans la culture aussi algérienne, qui est aussi une symbolique très forte. Et donc, ça c'est aussi ces lieux de rencontre. Alors, on essaye de créer des ponts. Par exemple, là, il y a un très beau projet, je pense que vous connaissez l'ancien Tati.
Enfin, Tati, oui, ou du moins très célèbre.
Très célèbre, le Tati de Barbès.
Le Tati de Barbès.
Justement, dans les chansons, c'est viens, on porte les cabas, tonton, enfin, qui est dans les clips. Et justement, c'est comment ces lieux-là, bah, qui maintenant sont dépassés, comment on va réussir à les retravailler. Et donc, nous, justement, notre projet, c'est de faire en sorte de créer des liens. On parlait par exemple de Maison Château Rouge, avec Youssouf, avec lequel je connais bien, et qu'on travaille, il fait un superbe travail. C'est comment, dans ces lieux-là, on prend les gens qui sont ici, et on améliore le quartier, mais avec eux, pas à leur place, avec eux. Et ce boulot-là, on le fait, par exemple, on a plein d'autres aussi, on a plein de tailleurs sénégalais. Par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est les hommes qui font la couture, c'est pas les femmes. Donc, comme on voit aussi, on a des images parfois qui sont très ethnocentrées. Et ben, notre boulot qu'on a fait aussi, c'est comment on les accompagne dans un premier temps pour avoir des papiers, pour avoir des locaux. Et maintenant, ils font des superbes créations. Par exemple, au début du Covid, c'est eux, quand la ville de Paris avait distribué, c'est eux qui ont cousu des tonnes et des tonnes de masques. Et aujourd'hui, ils font du travail de super qualité. On a amené Chanel les rencontrer pour essayer de voir s'ils peuvent faire des coopérations. Et donc, c'est comment on crée des passerelles, on crée des ponts, justement, au lieu de créer justement des divisions, pour essayer de valoriser les habitants, leur savoir-faire. Et c'est là qu'est la France de demain. C'est pas dans d'autres quartiers où il n'y a que des ghettos de riches, mais c'est là où les gens se mélangent, où il y a de la mixité, qu'on a la France de demain, et c'est celle-ci qu'il faut mettre en exemple.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les endroits comme la FGO Barbara ou plus récemment l'Adidas Arena qui vient d'ouvrir, ça peut permettre justement cette connexion?
Oui, c'est totalement c'est ce qu'on veut faire. L'idée, je me souviens quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, venait à Port-de-la-Chapelle, parce qu'on avait des campements géants de personnes à la rue, pour attirer l'œil du gouvernement, parce que c'est le boulot, c'est son boulot, le gouvernement, de s'occuper des personnes à la rue. Et on avait plusieurs centaines, milliers de personnes à la rue dans des conditions ignobles à Port-de-la-Chapelle, toutes les semaines, à venir pour attirer leur regard. Et puis, au même moment, on venait d'obtenir les Jeux Olympiques en 2024, là, qui vont être dans quelques mois. On avait un débat de savoir où on allait construire l'aréna, et s'est dit, on va le mettre là. Tout le monde l'a pris pour une folle. Et puis au final, aujourd'hui, c'est le cas. C'est dans un quartier qui est, je pense, l'un des plus grands, où vous avez le plus de clichés, des Portes de la Chapelle, même une petite mamie au fin fond de la Nièvre, les poils qui se hérissent quand elle entend Portes de la Chapelle. Et on va mettre une super infrastructure. D'ailleurs, on a piqué au 13e l'équipe du Paris Basketball qui était là, et maintenant c'est devenu leur.
Qui joue à Charletti ou parfois à côté dans le 12e à l'Accor Arena.
Et bien maintenant c'est chez nous. Ils sont à l'Accor Arena et ils ont encore fait une victoire hier. Ils ont gagné face à Nancy. Puis ils mènent une belle carrière maintenant, et donc on va souhaiter. Mais c'est un bel écrin pour eux. Et c'est justement de se dire, dans des quartiers justement où on. Qui était parfois. Qui avait le sentiment d'abandonner, on va mettre ce qu'il y a de plus beau. Pour attirer du monde, j'espère que maintenant vous pourrez aller à Porte de la Chapelle sans avoir peur, Et en tout cas, en ayant l'idée d'aller voir un match de basket ou autre à l'Accor Arena. Et c'est ça qui permet de rebooster les quartiers, redonner confiance aux habitants, remettre des lieux où ils peuvent se réunir, se valoriser, du boulot et surtout changer le regard sur ces quartiers-là parce que c'est là qu'on a les richesses pour demain.
D'accord, merci beaucoup.
Lucas ?
Ouais, au-delà de ça, j'avais une question. Parce que on sait que l'enjeu dont parle Louis, de faire cohabiter des populations plus aisées avec des populations plus pauvres, ça va aussi sur le prix des loyers, avec la gentrification qui fait parfois des ravages sur Paris. Est-ce que vous avez des plans spécifiques pour encadrer les loyers, empêcher la flambée des prix de l'immobilier via Airbnb, par exemple ? Qu'est-ce que la ville fait à ce sujet ?
Le premier truc, hein, c'est faire du logement social. Je veux dire, on peut mettre les choses dans tous les sens. Si on ne construit pas du logement social, on va avoir Paris. Et je pense que c'est le cas peut-être de tout le monde autour de la table. Moi, j'ai cherché un logement pendant 2 ans. Mais comme tout le monde, on est chez ses parents, on y reste un peu plus longtemps. On est étudiant, on aimerait bien avoir sa vie, une vie sentimentale, une vie amicale. Et en fait, on voit que le problème du logement, c'est la galère pour tout le monde. Et donc, si on n'a pas de logement social, on va faire en sorte que les personnes les plus aisées, au final, qui vont pouvoir vivre à Paris. Et tout à l'heure, je parlais de ghettos de pauvres, mais les ghettos de riches, c'est pas mieux. Donc, il faut casser ces deux ghettos. Un, donc construire du logement social. Donc, c'est du fric, c'est des priorités financières et une volonté. Donc ça, la ville, on en fait. On en construit également dans les quartiers qu'on ne veut pas. Quand je pense à ma chère madame Rachida Dati, qui
est 7e arrondissement.
7e arrondissement, qui est l'un des quartiers où on a une plus forte concentration de personnes riches de France, qui fait des pieds et des mains à chaque fois qu'on veut faire construire le moindre logement social, eh ben, on en fait contre sa volonté. Pareil dans le 16e, etc. Donc en faire aussi dans ces quartiers-là. Nous, on en fait aussi, par exemple, à Montmartre. C'est ça. Vous évoquiez à juste titre l'encadrement des loyers. On le fait. Ça permet d'éviter qu'on ait des envolées, qu'on ait des propriétaires un peu parfois pourris qui mettent dans des... On voit parfois... moi, j'ai été par exemple dans un 12 mètres carrés. Alors, j'étais aux abesses, c'était bien, mais j'avais 12 mètres carrés. Pendant le confinement, c'était un peu long. Mais à des prix qui restent raisonnables. Et on sait souvent qu'on a des propriétaires parfois qui se comportent comme des pourris. Donc, c'est important qu'on puisse encadrer ça. Et je le dis, c'est important, c'est-à-dire que signez votre bail, même s'il ne respecte pas l'encadrement de mon loyer, vous pouvez le vérifier sur le site de la ville de Paris. Et une fois que le bail est signé, vous le signalez à la ville de Paris et nous, on s'en occupe au propriétaire de lui tordre le bras pour qu'il respecte l'encadrement des loyers. Donc, signez votre bail, même s'il ne le respecte pas, et le lendemain, vous filez le signaler. Il faut se faire parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 60% des baux qui sont signés à Paris. Et donc, en priorité, je parle aux étudiants, parce que c'est souvent eux, ils prennent des studios ou des colocs. C'est eux qui se tapent les loyers les plus élevés et qui malheureusement n'utilisent pas les droits qu'ils ont. On a créé ça pour eux, donc il faut qu'ils l'utilisent et ils ne le savent pas assez. C'est vraiment un outil hyper simple. Vous vérifiez sur le site de la ville de Paris, vous mettez votre nombre de mètres carrés, votre adresse et ça vous dit où serait situé votre loyer. Donc il y a ça et puis on crée aussi des logements étudiants. Le 18e et le 13e sont les deux premiers arrondissements en termes de logements étudiants à Paris. C'est hyper précieux quand on arrive à Paris, parfois de loin, on a besoin d'avoir ça et donc c'est aussi précieux. Et puis, on crée aussi d'autres trucs. Hein. Alors, c'est des choses un peu plus bizarres. Ça nous vient de Scandinavie. On peut acheter, mais à peu près à moitié prix. Aujourd'hui, alors quoi que ça a baissé, on est à peu près à 10 000 euros, 9 000 euros le prix du mètre carré à Paris. On a la possibilité d'acheter à 5, voire 4 000 euros le mètre carré. Vous achetez, en fait, vous achetez pas les murs, c'est un peu technique. Vous achetez, en fait, sur 100 ans et vous pouvez pas léguer. Donc, c'est un dispositif, ils font pas mal ça. En fait, ça permet à la classe moyenne d'avoir un bien, d'en être propriétaire à l'intérieur de Paris. On essaye de faire tout, du logement social, l'encadrement des loyers, ce type de bien d'accession à la propriété, pour justement tout le monde puisse essayer de vivre à Paris, parce que la mixité sociale, c'est un élément clé pour que, moi j'habite à Châteauroux, j'habite à la Goutte d'Or, c'est ce que j'aime aussi, il y a un peu de bordel, on va essayer de bosser pour que ça soit un peu mieux. Mais c'est aussi cette mixité qui fait que moi j'aime mon quartier et que beaucoup aussi aiment Paris.
Avant de mettre les pieds dans le plat avec la chronique d'Ariane, on va juste marquer un court instant pub et on revient là dans 30 secondes.
Parfois, on se croit assez grand pour jouer. Mais le jeu d'argent n'est pas autorisé avant 18 ans. Votre commerçant peut donc vous demander une pièce d'identité.
De retour dans Politiquement Vôtre, hein, toujours avec Kevin Avey, lui, Lucas et Oriane. Et justement, Oriane, c'est l'heure de mettre les pieds dans le plat avec ta chronique, Jingle. Alors toi, Oriane, ta chronique aujourd'hui, c'est sur le sentiment d'insécurité des Parisiens.
Effectivement, 54,1% des habitants déclarent un sentiment d'insécurité en 2021, contre 52,2% en 2019, d'après l'Institut Paris Région le 17 janvier 2023.
Un sentiment d'insécurité plus pour un sexe que l'autre.
Oui, Aboubakar, ce sentiment d'insécurité touche nettement plus de femmes que d'hommes. La peur d'être seule le soir dans son quartier est 4 fois plus grande que chez les hommes. À leur domicile, les femmes éprouvent 2 fois plus de peur que les hommes.
Un sentiment d'insécurité qui progresse également.
Oui, selon la dernière enquête de victimes de l'Institut de Paris Région, réalisée auprès de 10 500 personnes, le sentiment d'insécurité a progressé dans l'ensemble de la région, mais c'est à Paris que cette hausse est la plus marquée. Plus de 8 000 franciliens âgés de 15 ans ont été interviewés par téléphone sur leurs conditions de vie, particulièrement sur leur exposition à l'insécurité au cours des 3 années précédentes.
Quels sont les éléments mis en évidence dans cette enquête, Oriane ?
Parmi les éléments mis en évidence, la part de la population victime de vols sans violence ou de tentatives est en diminution, 10,3 au cours des 3 dernières années, contre 12,7 en 2019. Une baisse significative s'observe aussi au niveau des agressions, 7% contre 8%. De même, une diminution des dégradations ou destructions des véhicules rapportées par les ménages interrogés, 16,6% des ménages contre 21,7%. Ainsi que pour les vols à la roulotte, 11,3% contre 15,3%. Et dans une moindre mesure, les vols de deux roues, 18,1% contre 20,4%. Et les vols de voitures sont passés de 6,6% contre 8,7%. Les restrictions de déplacement de la population pendant la période couverte par l'enquête pourraient être un des facteurs de la réduction de la délinquance.
Et qu'en est-il du 18e arrondissement de Paris ?
Selon Ville Data, en 2022, les forces de police et les gendarmes de Paris 18e ont enregistré 20 784 crimes, délits et actes de délinquance.
Comment ça s'explique ?
Le taux de pauvreté de Paris, du 18e arrondissement, est un indicateur intéressant. Ce dernier est de 24% de la population de Paris. Cela représente 25 298% des ménages de Paris. 25 298 ménages de Paris 18e qui vivent avec un revenu mensuel inférieur à 1026 euros. Sur les dernières années, l'impact de la crise sanitaire est à prendre en considération. La population est restée davantage à son domicile, ce qui impacte fortement certaines données comme les cambriolages, les entats aux personnes dans les lieux publics, mais aussi les violences intrafamiliales.
Quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour les Jeux Olympiques ?
La préfecture a déclaré à nos confrères d'Euronews qu'entre 30 000 à 45 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour garantir la sécurité. Deux contrôles et des fouilles seront effectués sur les spectateurs, en particulier lors de la cérémonie d'ouverture.
Et le plus important, qu'en est-il du sentiment des Parisiens ?
L'opinion est partagée. Alors que certains expriment leur confiance dans les mesures de sécurité, d'autres soulignent un sentiment d'exclusion dans les préparatifs et des inquiétudes sur l'impact des JO sur la vie quotidienne à Paris. On écoute.
On redoute un petit peu parce que ça apporte beaucoup de monde. Hein. Et puis en ce moment, vu la situation actuelle, vous savez, on craint un petit peu les émeutes. Quoi, hein.
Je vois les JO toujours d'un bon oeil parce que déjà c'est quelque chose qui me plaît, ça rassemble et puis de toute manière ça apporte de nouvelles infrastructures dans les villes. J'ai vu qu'il y allait avoir aussi des choses en banlieue qui allaient être construites, donc ça c'est vraiment pas mal. Économiquement c'est toujours bien. Hein.
J'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé et je suis pas sûre de regarder. Mais en vrai, je vais boycotter un peu je pense.
J'ai plutôt l'impression qu'en tant qu'habitant de Paris Centre, non seulement on pourra pas vraiment participer à la fête, mais qu'en plus on va plutôt subir tous les désagréments. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'axes de circulation qui vont être fermés. J'ai peur que le centre de Paris soit un peu invivable. J'espère que ce sera une vitrine, tout dépendra s'il n'y a pas d'événements qui viennent un peu gâcher la fête. C'est sûr que si ça peut être une très bonne vitrine si tout se passe bien, comme ça peut être assez à double tranchant, comme l'avait montré le Stade de France quand il y a eu les émeutes. Ça peut aussi donner une image déplorable si jamais il y a soit des grèves, soit des émeutes, soit des problèmes de sécurité.
À l'approche de l'événement, l'équilibre entre la sécurité et le confort des citoyens reste au centre des préoccupations.
Merci Oriane. Quelqu'un pour rebondir, Lucas, pour rebondir sur ce qui a été dit, ce qu'on a entendu, sentiment d'insécurité, sécurité, Paris.
Déjà, merci Oriane pour la chronique. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire en fait en l'écoutant, c'est que donc on parle de sentiment d'insécurité et d'insécurité, puisqu'elle a montré à travers plusieurs chiffres que globalement l'insécurité recule à Paris, mais
plus le sentiment d'insécurité augmente.
Et ça, c'est pas uniquement dû au fait de ce qui se passe à Paris, c'est un peu on va dire des psychoses générales, c'est un peu aussi le moment où, en ce moment, il y a une grosse peur pour l'insécurité, c'est que c'est un des sujets principaux et qui est repris par aussi des partis politiques qui font leur publicité sur l'insécurité. Donc moi, je trouve ça toujours assez drôle.
Et comment on rassure les riverains, Kevin Havet, quand on est maire, en plus en charge de la police municipale, pardon, comment vous rassurez, vous, vos riverains? Est-ce que vous avez des retours déjà de ce sentiment d'insécurité?
Le boulot premier d'un élu, en particulier d'un élu local, c'est de rencontrer, d'échanger, de faire de la pédagogie et surtout, c'est ce qu'on fait en permanence, c'est remettre de la rationalité dans un monde qui est de plus en plus irrationnel, où, c'était dit aussi avant, on parle de sentiments. Même si c'est un sentiment, il faut le traiter. Alors après, on peut le traiter rationnellement. Et puis, il y a des choses au fond. C'était évoqué juste le titre avant, en particulier pour les femmes. Sur l'espace public, c'est plus compliqué. Ça dépend de certains quartiers, ça dépend de certaines ambiances. C'est vrai qu'on a des endroits où il y en a plus particulièrement, on va avoir que des hommes sur l'espace public. Et je comprends. L'une des autres particularités qu'on a dans le 18e, alors était évoqué le taux de pauvreté, c'est un fait, c'est pas le seul. On a d'autres arrondissements, en effet, qui sont concernés. Mais l'une des plus grosses, ce qui différencie le 18e de beaucoup d'autres arrondissements, c'est qu'on a des flux énormes. On est situé juste au dos de la gare du Nord, gare de l'Est, et on a à Porte de la Chapelle, c'est le seul endroit où une autoroute qui arrive. Et donc, vous êtes une personne migrante, vous arrivez de Lampedusa ou du sud de l'Espagne, vous avez 95% de chance un jour de passer par les 3 km² du 18e. Et donc, la plupart du temps, ça se passe bien. Ça fait partie aussi de l'origine, de l'identité du 18e, c'était décrit tout à l'heure. Mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de monde sur l'espace public. On a Montmartre, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est le monument gratuit le plus visité au monde. Et donc avec tout ça, on a 200 000 habitants tous les jours dans le 18e, mais on double notre population avec tous ces flux. Et donc ça, c'est notre sujet qu'on doit traiter. Moi, j'habite à Château-Rouge. Vous avez, entre guillemets, ce qu'on appelle une clientèle captive. Vous voulez faire un dolé ou vous voulez faire un poulet yassa, vous êtes obligé de venir à Château-Rouge. Vous allez, d'autres personnes vont forcément venir à Barbès, etc. Et donc, on a ça à gérer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ça se passe aussi bien. Et donc, c'est le boulot. C'est aussi pour ça qu'on crée une police municipale de proximité, pour faire du lien. Malheureusement, en 2007, Sarkozy a supprimé la police nationale de proximité. Parce qu'il avait dit, je m'en souviens encore, cette phrase, on ne paye pas des policiers pour aller jouer au foot avec les jeunes. Et bien, malheureusement, si, entre autres, on en a besoin, mortellement, ça nous manque, d'avoir des policiers qui créent du lien. On crève de ce sentiment de défiance des uns envers les autres. Et on a besoin de créer ce lien. Il y a encore quelques jours, avec une assoce du 18e, on avait fait des temps d'échange entre les jeunes, entre nos policiers, en partageant un morceau, en jouant, etc., pour que justement tout le monde apprenne à se connaître et qu'on n'ait pas ce sentiment de défiance. Et c'était dit aussi pour déconstruire ce sentiment d'insécurité. Et puis aussi le traiter quand il a lieu, parce qu'il y en a besoin et il y a aussi de l'insécurité.
Lucas,
moi je voulais vous poser une question. Est-ce que le traitement de la sécurité des Parisiens, elle passerait pas aussi ailleurs que par la présence policière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers que vous pourriez utiliser pour... améliorer la sécurité et le sentiment d'insécurité?
De toute manière, tout est lié. Les endroits, moi je parle pour ce que je connais dans le 18e, là où j'ai les plus gros sujets d'insécurité, en général, c'est que l'urbanisme, ça ne marche pas. C'est là où on a fait des grosses tours, c'est là où on a fait des trucs horribles dans les années 60, 70, 80, et jusqu'au début des années 90. Et puis c'est là où on avait du deal de crack, on avait des endroits très enquistés, très compliqués. Et donc c'est ça qu'il faut changer. Le boulot qu'on fait, par exemple, quand on est sur Porte de la Chapelle, quand on crée l'aréna de Porte de la Chapelle, quand en 2025, on crée un campus qui va attirer 3000 étudiants, quand on investit pour mettre tout ce qu'il y a de plus beau sur l'espace public à Porte de la Chapelle, c'est justement pour remettre de la machine à la mixité sociale. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de consommateurs de crack sur l'espace public à Porte de la Chapelle, parce qu'il a été aussi pris en charge, et donc ça a fonctionné. Parce qu'on a aussi une présence policière qui est importante et ça a fonctionné. Parce qu'aussi, on a de nouvelles personnes qui sont venues. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on puisse faire avec une sorte de plan Marshall, faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, la sécurité, ça marche entre autres par des policiers. Mais la justice, c'est entre autres. Il y a également la police municipale, il y a également les clubs de prêve, il y a également des endroits comme on est aussi en soutien à la jeunesse. C'est en soutien aussi changer l'urbanisme, éviter de concentrer dans des quartiers tous ceux qui ont des difficultés, remettre de la mixité et puis remettre de la confiance. C'est aussi ça le boulot.
Comment vous vous préparez à l'approche des Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y a une appréhension particulière?
Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est le boulot de la préfecture de police. On travaille bien avec eux. Et puis, le sujet, c'est comment on fait en sorte que ça marche bien pour les JO, mais aussi pour la suite. Parce que c'est tout ce qu'on... par exemple, je décrivais le travail qu'on fait à Porte de la Chapelle. C'est évidemment pour les JO à partir de juillet et d'août. Mais après, c'est aussi surtout que ça fonctionne bien pour la suite. C'est pas, on n'oppose pas ces quelques semaines à la destinée des habitants. Donc, il va y avoir énormément, c'était dit tout à l'heure, de forces de l'ordre qui vont venir de toute la France. Moi, je suis en contact même avec le ministère de la Défense. Ils ont des sujets pour les loger, etc. Voilà, donc on aura des policiers, douaniers, militaires à quasiment tous les mètres carrés du Paris. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a également, et ça, c'est aussi bien pour les Parisiens, on a dans tous les arrondissements, et nous, même dans le 18e, on en a deux, on aura des aires où on pourra suivre dans des squares de nos arrondissements des genres d'aires olympiques où on pourra suivre les épreuves olympiques, où on aura un bar, on aura des animations toute la journée, etc. Ça va être des super endroits très sympas, justement pour que les Parisiens aussi puissent en profiter. Mais non, ça va être une belle fête. On travaille bien. La France, on a l'habitude d'organiser des grands événements internationaux. Donc non, je suis très confiant sur comment ça va se dérouler ces Jeux olympiques et paralympiques.
Une confiance partagée autour du plateau ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes qui étaient assez chaudes ? On entendait aussi dans le micro-trottoir une femme qui nous disait « je vais quitter Paris lors des Jeux ». Est-ce que c'est une décision que certains d'entre vous prendront ou vous êtes là pour les JO ?
Moi, je ne pense pas que je serai là. Je sais que... Bah, parce que déjà, il y a des... comment dire ? Il y a des gens qui vont devoir partir parce que leur structure, là où ils travaillent, vont fermer pendant les JO, justement. Et donc, beaucoup vont devoir, entre guillemets, partir de Paris à ce moment-là. Et puis, ouais, c'est vrai que moi, j'avoue que les JO, je suis pas très confiant quand je vois déjà rien qu'en... Pour parler du transport, la situation des transports à l'heure actuelle est... Quand on voit qu'on attend des centaines de milliers de personnes en plus, voire plus, dans Paris, je me pose vraiment la question. Pour moi, là, à l'heure actuelle, quand je prends le RER, le métro tous les matins, je me dis, c'est foncièrement impossible.
Catastrophe.
Je crois que c'est, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est jusqu'à 16 millions de personnes qui sont attendues en plus pour les Jeux Olympiques.
J'ai vraiment été gentil alors.
Non, mais c'est une... ça fait pas peur tout ça, Kevin Avey ?
Non, alors oui, c'est sûr que sur les transports, on va pas se dire qu'on se rejette la patate, mais c'est vrai que c'est le boulot un peu de la région. Et je pense que Valérie Pécresse a pas été à la hauteur. C'est vrai que la situation dans les transports est un peu catastrophique. Et puis en plus, on nous augmente le prix du pass Navigo et on ne voit pas à quoi ça sert. Donc oui, là, clairement, il faut mettre un coup de boost. Je crois que la maire de Paris l'avait dit. Après, je trouve que voilà, on a les JO à Paris une fois tous les 100 ans. Ça serait dommage de partir pour ce moment-ci. On aura des gens du monde entier, on va pouvoir faire la fête, s'amuser, sortir, rencontrer des gens, voilà, échanger. Il y aura aussi des moments dans tous les arrondissements où on va pouvoir partager des moments de joie, des moments de bonheur. Donc voilà, donc faut en profiter. Et puis, il faut que tout le monde se booste. Et ouais, je crois qu'il faut que Valérie Pécresse, ça se booste un peu aussi sur les transports. Mais allez, ça va le faire.
Mais est-ce que c'est pas une fête plus pour les touristes que pour les Parisiens ? Vous disiez, il ne faut pas partir de Paris, ce sera une grande fête. Est-ce que c'est pas plus la fête, finalement, des touristes que des Parisiens ? Ou moi, j'ai l'impression un peu qu'on vient me piquer ma ville pendant un mois. Il y a même des endroits où on dit qu'on aura besoin de passe pour pouvoir circuler, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas la fête des touristes ? Et voilà, quoi.
Alors, juste sur les chiffres. La majorité des personnes qui vont venir, ça va être aussi des personnes qui vont venir de France. Parmi les places, c'est des gens qui viennent aussi de banlieue. Et donc, en fait, en termes de volume, c'est des personnes qu'on a l'habitude de voir. Et puis, c'est sûr, oui, on aura beaucoup de monde. Après, je veux dire, on habite à Paris, on a l'habitude d'avoir du monde. Sinon, on n'habiterait, je pense, déjà pas à Paris. On a quand même cette habitude-là. Comme je dis, voilà, on aura des moments à la fois dans tous les arrondissements, etc., pour permettre que ça se vive. Il y a eu, c'est vrai, un peu des psychoses. On s'est tous dit, on va comme durant le Covid, on va se balader avec des applications, des cartes d'identité, etc. Je ne sais pas comment ça va faire. Ça, c'est pour quelques endroits qui sont vraiment à immédiate proximité des aires olympiques. Alors là, ils n'ont pas de chance, mais en l'occurrence, c'est surtout en fait dans l'ouest parisien ou dans le centre de Paris. Le 18e arrondissement, nous, c'est vraiment un tout petit quartier, mais même pas autour de l'aréna à la porte de la chapelle. Et sinon, l'immense majorité du temps, n'y aura pas de souci. Là, il y a le préfet, on fait différentes réunions dans les arrondissements pour expliquer tout, comment ça va se passer. C'est possible de poser ces questions, on a mis en place des newsletters, etc. pour être informé, mais ça va bien se passer. Et puis, il faut prendre un peu de mesures de sécurité, c'est sûr, il faut l'anticiper. Certains, c'est vrai, on encourage pour faire du télétravail. C'est quelque chose qui est désormais devenu un peu plus habituel depuis le Covid. Mais non, ouais, j'insiste, il faut rester à Paris.
Bon, moi, je vais partir, mais...
J'ai pas été très convaincant.
Le message, il est passé. Peut-être que Lucas, il ira dans le sens de Kevin Avey ou pas ?
Pas vraiment.
Alors, moi, j'irai m'amuser à votre place, tant pis pour vous.
Vous avez bien raison. Moi, de mon côté, si je pouvais partir, je serais parti. Je vais être contraint de rester pour des obligations professionnelles, mais je n'ai pas de soucis particuliers au fait de rester. En fait, ce n'est pas pour moi que je suis inquiet. On a parlé de beaucoup de quartiers du 18e. Il y a un quartier mythique du 18e arrondissement dont on n'a pas encore parlé. C'est la Porte de Clignancourt. À la Porte de Clignancourt, c'est un quartier que j'ai vu beaucoup évoluer, beaucoup changer récemment, en bien par ailleurs. Mais il y a notamment une grande résidence étudiante à la Porte de Clignancourt, un Crous. Et j'ai toujours cette appréhension vis-à-vis des étudiants qui vont devoir quitter leur logement pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez prévu des choses, des solutions alternatives, ou est-ce qu'ils vont devoir juste se débrouiller pendant un mois, pendant cet été? Et on sait que depuis le Covid, il y a eu toutes les... Il y a plusieurs sujets qui sont apparus au sujet des étudiants. Il y a la santé mentale, la précarité, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de mettre un public fragile quasiment à la rue comme ça?
Alors sur les étudiants, vous avez entièrement raison. Il y a plusieurs choses qu'on fait sur eux. Un, déjà, on a mobilisé, on a fait énormément de distributions et on continue à faire des distributions alimentaires, en particulier vis-à-vis des étudiants. Parce qu'on voit bien que beaucoup sont en situation de galère financière pour finir leur fin de mois. En détresse souvent psychologique, et donc on a mis aussi des dispositifs de soutien psychologique, mais malheureusement souvent sont assez peu connus. Sur les résidences Crous, oui, comme je disais, aujourd'hui là, le 18e va dépasser d'ailleurs le 13e en termes de premier nombre d'hébergements pour les étudiants. Nous, ce qu'on a interpellé l'État qui gère les logements Crous pour justement éviter ces départs. Sachant qu'aujourd'hui, on a déjà en fait beaucoup en fait d'étudiants qui ne sont pas là pendant l'été et pendant les vacances. Mais justement, pour que ça soit évité que ça soit le cas, je pense que la ministre des Sports prend un peu le sujet à la légère. Elle a eu des propos qui n'étaient pas à la hauteur, voire même parfois un peu méprisants vis-à-vis des jeunes. Et oui, il faut qu'elle se ressaisisse sur le sujet.
Moi, j'ai une autre crainte pour continuer justement sur la précarité. C'est également l'après-JO. Parce que on le voit, tous les prix pendant les JO vont augmenter, mais est-ce que ces prix vont revenir ou pas? Et je pense avoir la réponse. Et je me dis qu'on voit justement que, comme vous dites, les jeunes et les moins jeunes galèrent. Comment les gens vont faire pour pouvoir vivre justement après cette augmentation?
Alors aujourd'hui, l'augmentation, elle concerne plus particulièrement, c'est vrai, les prix à la nuitée pendant la période des JO. Et tout simplement parce que c'est la loi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de l'offre et de la demande. Et donc, de facto, la demande va s'effondrer après. Donc en fait, de facto, les prix vont se réaligner. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur l'encadrement des loyers. Parce qu'en général, vous ne vous hébergez pas avec du Airbnb tous les soirs. Enfin, je l'espère pas. Sinon, ça va vous faire une sacrée facture à la fin du mois. Mais on le voit, c'est vraiment sur le Airbnb. D'ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure, nous, le Airbnb, on souhaiterait le restreindre, voire même l'interdire, en particulier dans certains quartiers, parce que ça enlève des logements mais pour les gens qui en ont besoin. Donc, ça fait rehausser encore plus les prix des loyers. Et donc, on demande de l'encadrer. Là, on a eu des députés socialistes qui ont demandé qu'on puisse, il y a une niche fiscale. C'est vrai que grosso modo, si vous faites de l'Airbnb, un propriétaire, eh ben, il va payer moins d'impôts. C'est un truc qui est complètement fou. Et le gouvernement a dit non. Il voulait garder cette niche fiscale, cette exemption. Donc on va se battre pour que ça soit retiré, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait davantage à mettre son appart en Airbnb. Et les gens qui l'ont en Airbnb, il faut les contraindre, il faut les enquiquiner pour qu'ils remettent leur appartement sur le locatif. Je pense en effet, donc l'augmentation concerne vraiment le Airbnb, ça va redescendre mécaniquement par la suite. Et sur l'offre de loyer classique, on ne constate pas vraiment d'augmentation. On a même aujourd'hui plutôt, en fait, on a le marché de l'immobilier globalement en France qui est en train plutôt de baisser. Donc c'est le prix à l'achat du mètre carré. Tout à l'heure, je disais que le prix du mètre carré est passé à 9000 euros. Les loyers ne sont pas encore en train de baisser, mais sont stables, voire en tendance baissière. C'est en ce moment pour renégocier un peu. C'est ce que nous indiquent les prix globalement.
Mais pour les loyers, d'accord, mais par exemple, on sait que pendant les JO, le prix du ticket va doubler. Je pense que les restaurants aussi, les prix vont énormément augmenter, tous les services, et je pense que ouais, tout va augmenter.
Alors encore une fois, sur les prix du ticket de métro, je ne pourrais pas dire autre chose que c'est une connerie de la part de la région, de la part de Pécresse. Non, mais elle n'a qu'à faire de meilleurs choix, et puis on pourra éviter de la critiquer. Mais oui, c'est une connerie sans nom d'augmenter ça, en particulier pendant les périodes des JO et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il ne faut pas que j'oublie, j'insiste à chaque fois sur le Paralympique, c'est hyper important et on fait d'ailleurs une très belle cérémonie qui sera à la Concorde, et puis une flamme paralympique qui va aussi nous traverser le 18e, je pense qu'elle traversera aussi sûrement le 13e.
Certainement.
Et donc, c'est aussi des beaux moments. Mais non, évidemment, c'est une connerie d'avoir augmenté ça. Sur les restaurateurs, je ne peux pas répondre à leur place. On est dans un pays libre et donc ils vont choisir eux-mêmes. Je les invite quand même à être vigilants parce que les touristes vont partir après et leur clientèle principale, c'est les Parisiens. Donc, s'ils veulent s'aligner, il va falloir qu'ils revoient ça un peu de manière correcte. Mais oui, vous avez raison, il va falloir être vigilant sur le sujet pour la suite. Ouais.
Oriane, toi, tu seras là pour les JO ?
Bah oui, je ne compte pas forcément partir. Moi, je suis plutôt d'accord avec le fait de rester. Je pense que ça peut être un moment sympathique. Malgré
tout ça, ça va être sympa.
Bah, je pense. Après, je me sens pas concernée par le ticket de métro parce que j'ai un pass Navigo.
Bonne idée.
Qui a augmenté aussi.
Après, c'est 90 euros le pass Navigo.
Là, c'est 85, ouais, à peu près.
Ouais, 90. C'est 5 euros, c'est pour moi.
Mais non, je pense, en période estivale, ça peut être bien.
Ok, bon, j'ai peut-être changé d'avis alors. Du coup,
moi, j'avais une autre inquiétude. Là, on cherche pas on sait qu'il y a des responsabilités qui sont de l'État, d'autres de la région, on l'a dit, pour les tickets de transport. Moi, j'ai une autre inquiétude, c'est concernant les libertés individuelles. Est-ce qu'il fallait tout accepter pour les Jeux Olympiques ? On sait notamment que sur la reconnaissance faciale avec les caméras, la CNIL a beaucoup retouché, mais quand même, ça va être accepté. Je crois que c'est pas la reconnaissance faciale, mais il y aura des reconnaissances par rapport au gabarit des personnes. Donc, il y aura des algorithmes qui vont reconnaître les personnes qui seront soupçonnées d'avoir commis un délit. Par ailleurs, il y aura des zones qui seront interdites d'accès. Donc, ça entrave notre liberté de circulation. Est-ce que vous regrettez pas que, sous prétexte d'accueillir les JO, on fasse des vraies concessions sur nos libertés individuelles ? Est-ce que c'est pas dangereux, notamment dans la période dans laquelle nous vivons plus globalement, politiquement ?
Les libertés individuelles, c'est précieux et il faut veiller en permanence à qu'elles soient maintenues. Et donc il faut avoir une vigilance de chaque instant. Juste un exemple très concret. Nous, on a cette vigilance-là. Par exemple, sur les caméras à Paris, c'est un peu compliqué comment on installe des caméras à Paris, mais il y a une grosse partie qui est financée par la ville de Paris. C'est un plan de vidéoprotection. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique. Mais on a fait en sorte de signer, quand on a signé ça avec l'État, on a mis une clause où on indique qu'on interdit, nous, ville de Paris, l'utilisation de ces caméras à des fins de ce que vous décriviez très justement, de reconnaissance faciale, etc. Même parfois, si des choses ne sont pas encore aujourd'hui possibles techniquement, mais parfois elles le sont, on a anticipé ça pour que la préfecture de police ou d'autres acteurs ne puissent pas le faire. Donc nous, sur Ville de Paris, en tout cas sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on a financé, on a interdit la reconnaissance faciale. Donc c'est un élément important, les libertés publiques, on y tient. Tout à l'heure je l'évoquais, mais par exemple la police municipale qu'on a créée, on est les premiers en France à avoir créé une autorité indépendante. Si vous avez un échange avec un policier municipal qui ne vous va pas, si vous pensez qu'il vous a mal parlé, si vous a mal, etc., vous avez une autorité indépendante. Ce n'est pas d'autres policiers municipaux. Je sais qu'on critique beaucoup la police des polices pour sa partialité. Et ben là, nous, on a créé une instance indépendante pour le faire. Et donc, ces libertés individuelles, c'est quelque chose de capital. Ça fait partie d'une des richesses de la France. Il faut se battre pour aussi en conquérir d'autres libertés individuelles. Mais en tout cas, on mène ce combat pour être vigilant et pour en gagner d'autres demain.
Ça n'empêche pas que c'est quand même regrettable que la liberté de circulation soit... Je reviens dessus. On a l'impression de revenir au Covid avec des attestations. C'est quand même assez embêtant.
Sur la liberté de circulation, je dois admettre que ces dispositifs de sécurité qui sont honnêtement assez classiques, ça va être... Je le prends moi pour le cas que je connais le mieux, par exemple le 18e. Ça va être un tout petit périmètre autour de l'aréna. On va avoir... et même pas en fait, même pas vraiment, je réfléchis en parlant, pardon. On va avoir par exemple la course à vélo qui va traverser les 18e, ils vont même passer trois fois Montmartre. Donc ça va être un super moment. Ça va être un moment aussi où les gens vont pouvoir être, ça va être des places gratuites. Je sais que ça fait partie des sujets, en se mettant le long du parcours. Ça me semble assez normal au final qu'on ait des dispositifs de sécurité qui soient entendables, qui permettent aussi, on a aussi ce combat-là. Par exemple, on parle beaucoup de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, que la maire de Paris a souhaité la plus grandiose et la plus ouverte possible. C'est pour ça qu'on souhaitait pour ouvrir le maximum de places gratuites pour les Parisiennes et les Parisiens, pour les personnes qui habitent en banlieue et au-delà. Donc voilà, donc c'est aussi un des sujets pour qu'on puisse le rendre plus accessible. Il y a besoin de dispositifs de sécurité, c'est un événement mondial. On pense que la cérémonie d'ouverture va être regardée, je ne sais plus par combien de milliards de personnes.
Deux milliards,
c'est un peu plus que ma famille. Donc on va être, voilà, donc je pense que c'est normal d'avoir ça, c'est temporaire. Mais il faut toujours veiller en effet que ces moments où les libertés individuelles sont suspendues, ça soit des moments temporaires, il faut que ça soit justifié. Je pense que c'est justifié et je pense que c'est temporaire.
En disant aux gens que j'allais vous recevoir, j'étayais un peu votre CV et je disais que vous étiez adjoint au maire. Et il y a toujours la même question qui me revient, ça veut dire quoi la vie nocturne ? Il est adjoint au maire de la fête, des bars, des restaurants.
Je sors faire la fête tous les soirs, c'est pour ça que j'ai des...
Que veut dire la vie nocturne ?
Non, la vie nocturne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde puisse faire la fête, inclusif, comme on dit pompeusement. Ça veut dire quoi, inclusif ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les femmes puissent aller faire la fête tranquillement. Ça veut dire que les personnes lesbiennes, gays, bi et trans puissent aussi faire la fête tranquillement. Ça veut dire qu'on peut la faire aussi tranquillement en trouvant un équilibre avec les voisins, parce que quand même un des gros sujets en général à Paris, c'est qu'on aime bien faire la fête dans un bar ou dans une boîte, mais on n'aime pas que le bar ou la boîte soit en bas de chez soi. Ouais. Et donc en fait, c'est faire tous ces équilibres-là, faire qu'on ait ça aussi partout dans Paris, pas qu'on aille faire la fête uniquement dans certains quartiers. Que si vous êtes au nord du 18e, aux Abbesses ou etc., vous puissiez aussi avoir des lieux à proximité de chez vous. C'est de faire en sorte que Paris, ça reste une ville où on fasse la fête. Il y a quelques années, on disait qu'il fallait forcément aller à Barcelone pour faire la fête. Après, certains disent que c'était uniquement à Berlin, d'autres c'était à Londres, etc. Je pense que Londres, c'est un peu terminé. Berlin, c'est toujours un certain type de fête. Barcelone, ça...
Attention, il y a un Allemand de l'autre côté.
Est-ce que Berlin, c'est l'Allemagne ? C'est une enclave dans l'Allemagne. Donc voilà, donc c'est aussi que pour Paris reste un lieu où tout le monde puisse aussi faire la fête, que faire la fête si on aime faire de l'électro, etc., faire de la guinguette pour les personnes âgées, les personnes... Voilà.
Et c'est où un faire lieu la où fête dans le 18e, alors ?
Ah, mais partout, c'est the place pour faire la fête. Non, mais vous avez évidemment, tout à l'heure, on en parlait, on a... Les cabarets qui sont nés à Paris. Alors pour l'anecdote, c'est le lien. C'est, vous savez pourquoi on avait plein de cabarets dans le 18e ? Parce qu'à l'époque où c'était pas dans Paris, et ben en fait il y avait pas de taxes, il y avait un mur, le mur des fermiers généraux, et donc ça coûtait moins cher. Et donc en fait l'alcool coûtait moins cher de se mettre une binouze de ce côté-ci du 18e que si on allait dans le 9e arrondissement. Et en fait c'est pour ça qu'on a eu tous les bars, etc. Donc on a les cabarets qui retrouvent une seconde vie. On a Madame Arthur, que je vous conseille, qui est super bien, qui est, vous avez, voilà, c'est assez reconnu internationalement, qui est un très bel établissement. Vous avez évidemment, alors c'était dit tout à l'heure, on a évidemment tout ce qui est au niveau de Pigalle, de Anvers, etc. On a des salles de concert, etc. On a la Cigale, on a l'Élysée Montmartre. Donc ça, c'est des lieux évidemment autres. On a la machine du Moulin Rouge. Alors, vous avez le Moulin Rouge et la machine du Moulin Rouge, que les plus anciens appelaient la Loco, qui faisait pas mal de soirées également là-bas. On a également dans d'autres quartiers de Montmartre, du 18e, on parlait par exemple des VGO Barbares, qui fait aussi quelques soirées. On a également, qui est plus connu, c'est plus de l'électro et d'autres types d'événements, mais c'est au niveau de la Porte d'Aubervilliers, c'est la station Gare des Mines, qui est géré par un collectif MU, que justement dans l'ensemble de nos projets urbains, on est en train de tout bouleverser dans ce quartier-là, entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers, on fait en sorte que ça puisse rester. Et ils sont sur une ancienne friche de la SNCF, et donc c'est de l'événement, voilà, c'est de l'électro un peu plus pointu, mais qu'on puisse avoir ça. Et puis on réfléchit aussi pour en faire d'autres, j'ai oublié, il y a plein de lieux aussi, vers Porte de Clignancourt, etc., vers Porte de Saint-Ouen également, voilà, là on a la Récyclerie, on a plein de lieux dans le 18e pour que tout le monde puisse faire la fête, s'y sente bien, safe, et puisse aussi rentrer chez lui tranquillement, et on essaye de trouver cet équilibre avec les voisins. C'est pas toujours facile, mais on y veille pour que ça se passe bien.
Dernière question, Lucas, après on va conclure.
Vous avez introduit le sujet en parlant du rapport avec le voisinage. On sait quand même que globalement, les établissements de nuit sont de moins en moins nombreux à Paris, qu'il y a beaucoup de plaintes des riverains. Je pense au quartier Mitoyen 18e de Pigalle, où il y a eu beaucoup de fermetures administratives. Comment est-ce que vous faites cohabiter le Paris qui veut faire la fête et le Paris qui veut se coucher tôt?
Alors oui, puis en plus,
tu fais partie duquel Paris, toi?
Ça dépend des jours.
Je suis un peu schizophrène parce que, étant adjoint à la fois à la sécurité et à la vie nocturne, parfois je demande des fermetures administratives au préfet de police et parfois, voilà. C'est ce que j'essaie de dire aux établissements, c'est-à-dire aidez-nous à vous aider. C'est-à-dire, grosso modo, essayez pas d'abuser. On fixe des règles pour que ça se passe bien et pour tout le monde. C'est-à-dire, grosso modo, c'est-à-dire, voilà, vous avez de la clientèle, c'est une chose de toute bête, ce que dit l'établissement, c'est vous ne laissez pas vos clients sortir avec un verre à l'extérieur. Soit ils ont une place en terrasse, mais si vous avez 30 personnes qui sont en train de consommer, qui sont en train de fumer leur clope, de prendre leur verre en extérieur, bah, les voisins deviennent fous. Donc, c'est vous ne laissez pas sortir les personnes avec un verre, vous mettez juste un vigile, ce qu'on appelle un chuteur aujourd'hui, et on arrive à trouver comme ça. On a aussi, nous, on finance des associations, ça s'appelle par exemple la Pyro de la Nuit, qui font soit de la médiation dans la rue, ils essaient de sensibiliser ceux qui font la fête, ceux qui sont dans les bars. Et puis aussi, ils font des médiations entre les riverains et les établissements. On a fait aussi les terrasses estivales. Là, la maire de Paris vient d'annoncer que pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, ça ne sera pas fermé à 22h, mais à minuit. Donc, c'est aussi de l'espace en plus qu'on a donné pour que les Parisiens puissent sortir, puissent profiter de l'espace public. Et on a trouvé aussi des compromis. On est très aidant sur les commerçants qui jouent le jeu. Et puis, ceux qui abusent des règles, on n'hésite pas non plus aussi très sévère à leur endroit. Donc voilà, si tout le monde joue le jeu, je pense qu'on peut y arriver. Mais en effet, c'est une gageure, c'est pas facile, parce que peut y avoir un risque que Paris devienne une ville musée, un peu comme Rome, où c'est très joli, mais il n'y a rien à y faire. Et donc, il faut que voilà, tout le monde y mette un peu du sien, et Paris va rester une ville où on fait la fête. Ouais.
Bah, merci en tout cas, Kevin Havet, d'avoir joué le jeu, vous aujourd'hui, et de vous être prêté au jeu des questions-réponses dans cette émission. Merci à Oriane. Ça va, t'as passé un bon moment?
Ça va, merci.
Lucas, ça va, ça s'est bien passé?
Super première émission.
On espère te revoir, du coup. Bien sûr. Louis, pareil?
Ouais, pareil,
ça
nickel.
Ça s'est bien passé?
Nickel, nickel.
La prochaine fois qu'on te voit, tu seras plus d'ailleurs service civique au centre Goscinny?
Peut-être, c'est quand la prochaine fois?
La prochaine fois, c'est en avril, mi-avril.
Ah, si, je serai encore là.
Encore là?
Ah, encore.
C'est en mai que t'es plus là, alors.
C'est ça, c'est ça.
Kevin Havet, merci encore.
Merci beaucoup.
Pour conclure.
Non, mais c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait des émissions comme ça qui puissent se dérouler, qu'on puisse avoir aussi des jeunes qui ont envie et faire que le métier de journaliste, un de mes métiers dont je rêvais aussi quand j'étais jeune, et voilà, donc je le souhaite à le plus grand nombre. On a besoin de jeunes qui s'investissent, donc félicitations.
Merci beaucoup. On va remercier également Daniel Mendy et le Centre Houdini et le Centre Goscinny qui est en partenariat sur cette émission. On va remercier Jason Lindor et Léonard Cherbit qui étaient à la technique derrière aujourd'hui. Léonard Lallemand, il était d'accord avec vous quand vous avez dit que Berlin était qu'une enclave. Il y a Thibaut Jovigno aussi qui est derrière, qu'on remercie, qui est venu assister à l'émission Politiquement Vôtre, qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir autour de la table une prochaine fois. Cette émission, elle est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute légale de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Podcasts, Spotify et j'en passe, et bien évidemment sur le site monparisfm.com. Et on remercie bien évidemment Maëva qui était à la communication et qui va vous mentionner énormément sur les réseaux sociaux. Kevin Havet, on remercie Maëva. Passez une très belle fin de soirée, prenez soin de vous.